Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Créée en 2013, l'Utopie est un tiers-lieu associatif situé rue Kessler, en plein cœur de Clermont-Ferrand. Mais qu'est-ce que l'Utopie ? Laissons les usagers et usagères du lieu le présenter.
Il y a la récupération de légumes et invendus, qui permet de récupérer des légumes pour pas trop cher, des invendus pour pas trop cher, c'est en prix libre.
Et ils donnent des aides pour les étudiants et c'est très intéressant. Comme moi par exemple, je suis étudiante étrangère.
J'aime bien aussi l'esprit du lieu et la démarche en proposant plein d'événements culturels et plein d'ateliers, etc. Des trucs qui peuvent permettre de découvrir plein de choses qu'on ne peut pas forcément voir ailleurs.
J'étais venue pour un vide de grenier, enfin des vêtements, pour acheter des vêtements.
La première année où j'y étais, j'y passais plus de 20 heures par semaine, je pense. Au moins, parce que du coup, je l'aidais à tenir les permanences, à gérer un petit peu tout. Enfin, je faisais un petit peu plein de trucs. Il y avait la possibilité aussi que je fasse des ateliers philo, parce que je suis en philo. Et du coup, maintenant, je fais des cafés philo à peu près... une fois tous les deux mois, on va dire. Ah oui, aussi, il y a la cuisine. Et c'est super intéressant parce que, surtout la première année, on était pas mal à se retrouver, on cuisinait ensemble. Et puis, du coup, on mangeait tous ici, c'était sympa.
Enfin, c'est pas comme si on allait dans un bar classique. C'est plus vivant, quoi.
Il y a des soirées comme ça à thème, en général, cool. Il y a plein de thèmes différents.
Franchement, je trouve que c'est un endroit qui a l'air très sympa parce que c'est la première fois que je venais ici. Et puis, le fait que tout le monde se retrouve pour partager un moment, bah, c'est surtout ça, je trouve.
Univox.
Mathieu Adenau est coprésident de l'Utopie et nous en a dit davantage sur la polyvalence du lieu et son ancrage local.
L'Utopie, du coup, il y a 120 mètres carrés et c'est un peu. C'est divisé en plusieurs espaces. On a la chance d'avoir une cuisine, ce qui est quand même quelque chose qu'on nous envie assez souvent parce que ça permet de faire de la cuisine et étonnamment, c'est pas anodin. ça permet de faire vraiment beaucoup d'activités autour de l'alimentation qui est un pôle phare à l'Utopie, qui est très complémentaire de l'épicerie qu'on a à l'entrée, qui est donc une épicerie à tarification solidaire pour les étudiants, étudiantes. L'idée, c'est d'avoir des produits bio, locaux ou équitables qui sont à prix coûtant. Donc c'est de rendre ce qui est le plus sain, le plus accessible possible. On est comptoir Doom, ça c'est pas vraiment physique à l'Utopie, mais c'est intéressant aussi de pouvoir consommer en Doom, c'est la monnaie locale du Puy-de-Dôme. Et puis après, il y a un espace café-bar, il y a un espace où on accueille des concerts, il y a un espace où il y a un piano, on peut venir se détendre. Enfin, c'est un lieu qu'il faut s'approprier, qui est assez modulable, mine de rien, en fonction de ce qu'on a envie d'y faire. On peut juste pas accueillir une pièce de spectacle avec 500 personnes, mais ça c'est peut-être une évolution future pour l'Utopie que d'acquérir un hangar. Donc la Doom, c'est une monnaie complémentaire locale qui est proposée par l'ADML 63, donc qui est une association qui gère cette monnaie complémentaire. Et la monnaie complémentaire, c'est une monnaie qui est à côté de l'euro. Il y a une équivalence, une Doom, un euro. Et en fait, quand on devient adhérent de la DML, qu'on commence à prendre des Dooms, on rentre dans un réseau de consommation que je dirais vertueux, parce que on ne pourra dépenser ces Dooms-là que que chez des producteurs, des magasins qui sont adhérents de la Doom et donc qui, sont adhérents aussi d'une charte. Et cette charte-là, elle encapsule un certain nombre de valeurs, qui sont des valeurs qu'on a à l'Utopie, par rapport à l'environnement, par rapport au social, et en ancrage local, bien sûr. Et donc l'idée, c'est d'avoir... on ne laisse pas la monnaie s'échapper, finalement, de la localité qu'est le Puy-de-Dôme. Et donc, on sort un peu d'argent. Enfin, j'espère que je ne me trompe pas, parce que sinon, Angèle va me gronder. mais voilà, on est dans de l'argent qui ne va pas être utilisé pour de la spéculation financière, par exemple. C'est de l'argent qui va vivre que dans un petit réseau, mine de rien. Je crois que les monnaies complémentaires, ça peut aller jusqu'à 1 million en termes d'espèces en circulation, mais ça anime un réseau mine de rien et ça, en plus ça renforce le lien souvent entre acteurs qui prennent la Doom. Nous des fois ça nous arrive on a la bière du plan B au bar, ils sont adhérents Doom, On les paye des fois en Doom. Enfin voilà, c'est des choses qui font sens et qui permettent d'identifier, mine de rien, des gens qui vont un peu dans la même direction. Parce que c'est, enfin, les gens qui, voilà, qui sont dans la Doom, c'est des associations, c'est des structures sociales, c'est des magasins bio. Donc on voit qu'il y a une certaine direction par rapport à l'éthique sociale, par rapport à l'éthique environnementale, qui voilà, est soutenue par le fait de consommer dans ce réseau restreint. Pour l'ancrage local, c'est aussi comment dire, une volonté qu'on affirme dans la façon dont on construit nos actions. L'exemple le plus marquant, mais irréalisé à cause de la Covid, c'est le Cri du Bourgeon. Donc c'est un projet de tremplin musical étudiant. Il a été mené, là, il a fait sa première édition. Je sais que la dimension d'ancrage local et d'animation du quartier, vraiment de l'espace local, a pesé dans la balance. Et que ça a été très apprécié, voilà. Pour les fournisseurs de notre épicerie, on cherche à être dans un rayon le plus proche possible autour de Clermont-Ferrand. Le choix de nos fournisseurs pour ce qui peut être à la fois la bière, par exemple, comme je disais, c'est une bière qui est brassée à 3 rues de l'Utopie, donc on peut difficilement faire plus local. Et l'exemple peut-être le plus marquant, c'est les super paniers avec les marchés de Max et Lucie, qui, elle, va chercher ses fruits et légumes dans un rayon de 30 km autour de Clermont. Donc là, on est purement dans la réflexion de circuit court pour l'alimentation. Un lieu de topie, ce qui est assez impressionnant et ce qui était vraiment conçu presque dès tout le début du projet, c'était d'avoir un local où on puisse presque tout faire. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir un lieu où on puisse expérimenter assez librement, sans, et je trouve que ça se ressent quand même assez particulièrement dans la dynamique qu'on a actuellement, mais même avant, sans les contraintes institutionnelles, par exemple, qui sont des contraintes de les locaux ferment à 22h, si vous voulez tel matériel, il faut le demander 3 semaines à l'avance. Enfin, il y a beaucoup de contraintes comme ça qui sont un peu de l'ordre de la bureaucratie. Quand on arrive, qu'on a un nouveau projet, qu'on met quelque chose en place assez rapidement, qu'on ne connaît pas les bons tuyaux, qu'on ne connaît pas les bonnes personnes à qui s'adresser, etc., c'est tout de suite plus compliqué. Donc, ouais, l'Utopie, c'est un endroit qui un peu permet justement d'accueillir ces personnes-là, leurs projets, et de un peu les rediriger, de les accompagner. C'est une des activités importantes du lieu.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'accueil de projets militants à l'Utopie, ou même juste d'actions militantes qui sont portées par l'association?
Alors, actions militantes, c'est pas une évidence, j'ai envie de dire. Enfin, l'Utopie, on peut avoir l'impression que c'est apolitique, mais dans les actes, il y a finalement un engagement qui est politique, mais il n'est pas partisan. Et c'est une volonté de plutôt être un espace d'accueil et d'échange, du débat, mais pas forcément de positionnement non plus. Donc le collectif Femmes de Mars joue un peu ce rôle-là, de permettre d'animer des thématiques autour du genre, de l'égalité homme-femme, des discriminations, mais sans pour autant être voilà, dans un positionnement que je qualifierais de militant, même si voilà, les actions sont engagées. Voilà, à l'Utopie, on constitue un peu des pôles en fonction des thématiques qu'on développe. Par exemple, en ce moment, il y a un projet sur le jardin partagé Rabanne-Kessler. C'est une volonté de reconvertir deux parkings qui ont été récupérés en propriété par la ville en un espace de vie, on va dire, sociale, mais avec cet angle qui est le jardin partagé. Ça rentre bien en synergie aussi avec l'émission d'un de nos services civiques qui est sur les projets de jardin partagé. Mais voilà, c'est un projet de quartier qui se veut intégrer à la fois les étudiants, les habitants de quartier, les institutions, et faire voilà, vivre toutes ces personnes-là et voir ce qu'elles peuvent un peu proposer dans un espace qui est le jardin partagé Rabanne-Kessler. L'Utopie accueille plutôt, je dirais, assez régulièrement des projets tutorés, donc avec des personnes qui se constituent en petits collectifs d'étudiants ou thématiques par rapport à ce qu'eux développent. Là, récemment, on a le partageux des étudiants de l'ITSRA, qui est donc l'école de formation de toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement social, voilà, sont venus nous voir parce qu'ils avaient besoin d'un espace pour développer un concept de jeu, je crois, d'escape game, voilà, avec un public migrant. Et donc on est un peu, voilà, un lieu de rencontre de ces publics-là. On vient à l'Utopie pour faire des jeux ensemble, pour rencontrer un peu des personnes, des étudiants, et donc se faire un petit réseau, puis avoir un lieu qui est aussi bien identifié, dans lequel on puisse se retrouver. On sait qu'on peut être bienvenu ici. s'installer, voilà, chiller, tout ça, tout ça. On, voilà, mine de rien, en fait, on est comme un espace de, voilà, qui permet à des groupes de se rencontrer, d'échanger. Bah, ça peut aussi être un groupe d'étudiants de l'IADT qui veut faire voilà, une petite... on accueille même des cours, des fois. C'est très ponctuel et c'est pas, il n'y a pas forcément une direction particulière. Mine de rien, ça reste dans des thématiques de... pédagogie, de solidarité, etc. Jusqu'à maintenant, on a toujours refusé, par exemple, d'accueillir des, plutôt des choses qui avaient une connotation de politique, au sens vraiment de partisane, donc de, un peu meeting politique à l'Utopie, ça on a essayé d'éviter. On a pu recevoir le maire pour présenter des plans d'action, de déploiement, du plan vélo, par exemple, mais bon, là, c'est plus de la communication institutionnelle.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Zoé Jarry s'est engagée à l'Utopie à partir de la rentrée 2013. Elle nous explique les enjeux de la création du tiers-lieu et sa dimension entrepreneuriale.
Grosso modo, l'idée, c'était d'en faire un laboratoire d'application des théories de l'économie sociale et solidaire et de la transition en général. Parce que eux, donc Geoffrey et le petit groupe qui émanait de ce master-là autour de l'économie sociale et solidaire, ils allaient bouffer beaucoup de théories, mais à un moment donné, on avait besoin d'appliquer, en fait, et de se dire comment est-ce que concrètement on donne vie à un projet qu'on revendique de l'économie sociale et solidaire et de la transition. Donc c'était voilà, comment on applique, en fait, comment on met en application. Il y avait des produits locaux, il y avait une solidarité au niveau des prix, de manière à ce que ce soit accessible par les étudiants. Donc il y a eu plein de petits tests, en fait, comme ça. Je trouve que c'était vraiment un espace éprouvette, en fait, laboratoire, où on a pu tester plein de choses. C'était une envie de tiers-lieu, mais qu'en fait, on a passé plusieurs mois avant d'avoir un lieu à mettre en place de la sensibilisation, des actions de médiation, de vulgarisation scientifique, etc. Donc on a fait des semaines du développement durable, des choses plus ponctuelles et plus événementielles avant d'acquérir un lieu. Et à ce moment-là, il y avait vraiment, on était, je pense, entre 15 et 20 personnes à peu près à former le noyau un peu dur du projet L'Utopie, qui est un projet qui, à la base, était dans le cadre d'un projet étudiant, une étude de marché, en fait, sur quels étaient les besoins des étudiants, enfin vraiment dans un processus d'innovation sociale, de partir des besoins, en fait, de ce qui manque, pour arriver après à définir une offre qui réponde, en fait, à un projet qui réponde à ces besoins manquants. En fait, à ce moment-là, donc c'était il y a quand même quasiment 10 ans maintenant, la notion de tiers-lieu n'était pas du tout connue comme elle l'est aujourd'hui. Il n'y avait pas du tout autant de tiers-lieux qu'il en existe aujourd'hui. Et en fait, l'idée, c'était de se dire le tiers-lieu n'est pas le lieu premier, à savoir le foyer, donc l'espace domestique. Il n'est pas non plus le second lieu qu'on définit comme étant le lieu du travail, plutôt, mais c'est un lieu tiers, un troisième lieu pas non plus un espace, pas tout à fait de l'espace public, mais un autre lieu où on peut se retrouver, se rencontrer, avec des usages un peu à définir. Et pour en faire un tiers-lieu, une autre définition, c'est qu'il faut que ce soit un lieu avec des usages hybrides, des usages mixtes. C'est-à-dire que ce ne soit pas un lieu où il y a des activités uniques, par exemple que des gens qui travaillent, que des gens qui viennent boire un verre, mais plutôt d'avoir un lieu où il y a une mixité des usages. C'est peut-être ça qu'on a un peu perdu dans les tiers-lieux d'aujourd'hui et encore. En tout cas, d'avoir plein de publics différents qui se croisent et qui n'ont pas tous les mêmes usages. Au départ, on n'avait pas de lieu, donc tout était un peu possible. Et puis à un moment donné, on a commencé à louer un petit local et on a eu les clés de ce lieu-là. Il a fallu du coup un peu tout inventer. Et moi, comme j'étais plutôt du secteur culturel, j'ai pas mal bossé sur tout ce qui était la programmation culturelle. Et ce que l'idée, en fait, c'est de se dire, c'est bien beau de faire un café, un lieu, mais il faut encore y faire venir les gens. Donc il y avait l'idée de faire toute une programmation d'activités qui était accessible, enfin, soit gratuite, soit à prix libre, et qui soit en priorité destinée aux étudiants. Et donc voilà, on a fait des ateliers d'impro théâtral, il y avait des ateliers cuisine, il y avait des repas partagés, ça pouvait attirer des publics différents. Et puis ça a été un lieu aussi où on pouvait venir travailler, on pouvait venir se réunir, faire des réunions, travailler en groupe, enfin voilà, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'étudiants. Déjà un usage, des usages hyper hybrides. Sachant qu'il y avait essentiellement à ce moment-là, comme le lieu était petit, il n'y avait pas de restauration, il n'y avait pas d'épicerie, mais il y avait un bar, il y avait le bar solidaire, quoi, où on vendait un peu des bières, des jus, des choses locales, des boissons locales, bio, etc.
Créer un projet ne se fait pas en un claquement de doigts. Zoé nous a exposé les différentes étapes qu'ils ont dû suivre et les difficultés qu'ils ont rencontrées.
Au départ, bah voilà, il fallait bien une structure juridique qui soit porteuse. Donc avec ça, on a voilà, fait beaucoup de paperasse, déposer des statuts, enregistrer l'association, trouver un président, ouvrir un compte bancaire. Enfin voilà, ce que fait chaque porteur de projet quand il débute. Et puis après, il y a eu toute une phase effectivement de recherche de lieux. Donc voilà, tout de suite, on est allé visiter plusieurs locaux. Et puis voilà, on a trouvé celui-là dans un premier temps, qui était tout petit, qui n'était pas du tout lumineux, mais qui nous permettait d'accéder à ça pour relancer le projet. Il fallait qu'on trouve aussi un modèle économique, en fait, pour pouvoir vivre, c'est-à-dire pour payer notre loyer. Des grosses difficultés, enfin, au départ, ça a été quand même ce lieu, parce que il n'était pas du tout, évident, parce qu'il était petit, il n'était pas lumineux, donc on a fait toute une phase de travaux quand même. Il a fallu vraiment le remettre sur pied. On a fait vraiment du bricolage et on avait zéro moyen. Ce que je peux dire, c'est que les relations humaines, elles ont toujours été très riches et très simples, en fait. C'est vrai qu'on avait constitué une équipe qui était super dynamique. Et après, forcément, il y avait des processus ou des décisions à prendre qui n'étaient pas simples, mais ça s'est toujours fait vraiment de manière super fluide. Donc ça, c'était bien. Après, je ne sais pas s'il y a eu des moments faciles, parce que en vérité, tout était, tout était à travailler, c'est-à-dire de recruter des bénévoles pour faire vivre le lieu, de trouver le modèle économique. Mais on l'a toujours fait dans le plaisir, en fait, même si c'était vraiment un travail avant l'heure. Je crois qu'on a tous pris beaucoup de plaisir à le faire. Toujours en parallèle, autour de nous, il y a eu la volonté de participer ou d'accompagner d'autres porteurs de projets. Ça c'est vrai. Par exemple, assez tôt, on a eu envie de participer à l'écosystème de la Doum, donc de la monnaie locale. Il y a eu aussi le développement d'un jardin partagé sur le campus des CESO. Donc en fait, tout autour de nous, il y avait quand même des porteurs de projets qui gravitaient. On a beaucoup quand même accompagné, on a fait venir des films, des films débats, on a fait... donc en fait, voilà, tout gravitait. Enfin, il y avait autour de nous plein de projets qui gravitaient et dans lesquels on était plus ou moins accompagnants ou facilitateurs quand c'était quand on pouvait. Enfin voilà, on a pu éprouver nos valeurs, en fait, par rapport à la réalité. Et ça, c'est vachement important. Donc, j'ai envie de dire pourquoi est-ce que ça doit exister, parce que c'est une école. Une école de la coopération, c'est une école de l'engagement, et ça, c'est super précieux pour faire des citoyens éclairés et qui ont envie de participer à l'édification d'un monde plus juste.
Univox.
Malgré la Covid et la fermeture obligatoire des lieux accueillants du public, Lieutopie tient le coup. Mathieu nous a éclairé sur comment Lieutopie a adapté ses activités durant la crise du Covid.
Lieutopie a un fonctionnement, un modèle économique hybride qui est une hybridation entre une activité commerciale, même si elle n'est pas à très large profit, qui est celle du bar, qui permet un autofinancement de l'ordre de 30-35% de mémoire. L'essentielle majorité du reste va être des subventions publiques, institutionnelles, etc. Et après des dons, des adhésions, des choses comme ça. Et donc on arrive à un équilibre qui fait que l'activité de Lieutopie, son budget annuel est composé de ces deux composantes. Le Covid en a supprimé complètement une, qui a été compensée par les fonds de solidarité de l'État, en partie. Mais c'est quand même quelque chose sur lequel on a dû être très attentif, parce que Lieutopie ne bénéficie pas de subventions de fonctionnement, et n'a pas vraiment de trésorerie à proprement dit. Donc on a des sous, mais il faut les dépenser sur des projets qui sont définis, c'est fléché, etc. Donc on n'a pas de grosse sécurité. Et donc, comme on a mine de rien une équipe permanente avec deux salariés, deux services civiques, c'est un coût incompressible. Et donc c'est aussi là-dessus que nous, on doit être attentifs. Il a été fermé pendant la première vague. Donc là, je n'ai plus en tête la temporalité des confinements, mais premier confinement, on a tout arrêté. Voilà, cette période mars jusqu'à la fin de l'année universitaire en mai-juin, à part 2-3 ateliers masques, vraiment la dynamique a été plombée. Ça nous a amené pour le confinement d'après à être beaucoup plus proactif. La chance qu'on a, c'est que l'Utopie n'est pas qu'un lieu, on va dire, apparenté, peut-être un restaurant ou un bar. On est aussi apparenté finalement à un commerce. Donc on a pu continuer à ouvrir partiellement l'Utopie pendant les confinements et autres successifs sur le motif de la première nécessité. Donc les gens continuaient à venir prendre des paniers et des invendus, des choses comme ça. Alors on a bien sûr beaucoup réduit l'activité. Le plafond des paniers était divisé par deux, des choses comme ça. Donc ça, c'est la lenteur de l'activité qui était due à la Covid. On s'est mobilisé avec d'autres acteurs qui eux aussi étaient un peu dans l'inaction. Donc je pense notamment aux Grandes Tables de la Comédie, avec qui on a fait plusieurs éditions de Grande Bouffe Solidaire. Donc c'est cuisiner des invendus, puis on les distribue à l'Utopie. Là, l'Utopie a quand même maintenu une activité tout au long de des confinements. Jusqu'à ce qu'on ait un peu cet espoir du vaccin, entre guillemets, les jauges, etc. L'Utopie, la jauge réaliste, effective, en prenant en compte les meubles pour calculer les distanciations des gens, etc. Je pense que c'est même pas 10 personnes. Donc ça commence à devenir compliqué parce que en parallèle, il faut se dire que l'Utopie a une activité de bar qui, mine de rien, l'autofinance. C'est très difficile de s'autofinancer sur 5 personnes qui viennent consommer peut-être une fois sur deux, enfin sur 3 jours semaine, quoi. Donc pour être réaliste, à ce niveau-là, pour nous, ça a été mieux de dire stop, on arrête, on fait une pause, on fait des reports. Et on essaie peut-être de réfléchir à d'autres projets. On se concentre sur le solidaire, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut accueillir. Donc on a accueilli, par exemple, Claudine, qui était une coiffeuse, qui nous a proposé de faire des coupes à 1€ pour les étudiants. Ça, c'était parfait. Ça a vachement marché. C'est même passé à TF1. Donc ça, voilà, ça, c'était possible. Parce que c'était vraiment une personne à un moment. On se croise pas, tout ça, ça marche nickel. Dès qu'il y avait des gens, c'était trop compliqué, en termes, même pour les responsables de l'Utopie, en termes de responsabilité propre. C'était pas évident du tout. Les objectifs, ça a été de faire un maximum d'actions solidaires avec le minimum d'heures, parce que le fonds de solidarité de l'État était conditionné aussi à la mise en activité partielle. Donc on a dû, mine de rien, mettre nos salariés en activité partielle. Donc on ne pouvait pas leur demander de travailler 35 heures alors qu'en fait, ils étaient en activité pour 4 heures. Donc l'idée, c'était de rentabiliser 4 heures, en quelque sorte. Enfin, je dis 4, mais je ne sais plus combien c'était exactement. Mais que les personnes de l'équipe permanente de l'Utopie puissent rester actives sur des projets. Ce qui fait que ça nous a un peu coûté sur le plan de l'engagement bénévole. Parce que finalement, pour le peu d'action, entre guillemets, qu'on a pu mener, les gens de l'équipe permanente, c'était déjà largement suffisant. Donc, on n'a pas pu vraiment dire aux gens, venez vous investir avec nous, venez participer à des projets, parce qu'on arrivait tout à gérer en interne quelque part. Donc, on est très content, là, en ce début d'année, on est des nouveaux bénévoles qui arrivent, etc., et qu'on puisse relancer cette dynamique. Mais sinon, voilà, l'énergie, elle a été un peu dépensée sur des distributions alimentaires, les grandes bouffes solidaires, typiquement. Distribue 200-300 portions de repas sur deux jours, ça nous a bien occupé. Voilà, c'était vraiment une année où on s'est dit là on bosse sur on bosse un peu peut-être sur ce qu'on aimerait faire l'an prochain, et puis on se concentre sur les quelques actions solidaires qu'on peut mener. Ça a mis de rien apporté un peu des nouveautés à l'Utopie, hein. On a profité du fait d'avoir nos frigos vides de bière pour les remplir de 5 hectares et deux qui étaient en complément des commandes de paniers. Voilà, c'est des petites évolutions qui ont eu lieu pendant le Covid, qu'on va garder maintenant, mais voilà, c'est des petites choses qui ont changé, parce qu'on avait plus de temps peut-être pour expérimenter, pour prendre du recul, pour réfléchir à certains trucs, des petits aspects. On a refait le local aussi, tiens, j'ai pas pensé ça, mais on a repeint tout le local, on l'a redécoré, enfin voilà, c'était aussi l'occasion, quoi. Et ça a malheureusement bien marché quelque part, enfin, ça, parce que ça répond à beaucoup de précarité étudiante aussi. Donc ça nous a peut-être obligés à être créatif d'une autre façon, sur la façon dont on menait nos actions, etc.
Cet Univox a été réalisé par Thibaut et Maëva de Radio Campus Clermont-Ferrand. Merci de votre écoute.